Faut concerner, mais là-haut, il y en a un certain nombre qui étaient encore en classe lundi et mardi. Les plus grands qui ont passé le bac ou le brevet sont en vacances depuis déjà un certain temps. Et comme il y a des enfants, des ados qui sont présents pendant tout le culte, je me suis dit ce matin, je vais essayer de penser à vous avec deux choses. La première, c'est que je vais essayer de faire en sorte que la prédication soit un peu moins longue que d'habitude. J'ai essayé. Et la deuxième chose, c'est qu'on va commencer par un jeu pour que vous deviniez de quoi on va parler. Alors, c'est un jeu où il y a des choses à gagner. Voilà, donc, hop.
Ça, vous voyez bien depuis là-haut. Donc, des choses, la nourriture très saine.
Voilà. Et le jeu que je vous propose, c'est un mot croisé. Alors, vous allez me proposer des lettres qui vont composer des mots qui sont ici. Et si vous proposez des lettres qui sont dans la grille, ben vous pouvez venir prendre quelque chose. Et puis, si en plus ça forme un mot, là, vous pouvez prendre deux choses. Et tout à la fin, avec tous les mots qu'on va deviner ensemble, vous allez devoir me dire de qui on parle, de qui on va parler. Alors, qui veut commencer par proposer une lettre? Christophe. L. Oh, bah oui, il y a un L. Tu peux venir. Il est là. Mais il n'y en a qu'un. Alors, une autre lettre. A. Oui, il y a des A. Ah, attendez. A. Il faut que je vérifie. A. Et puis encore un A ici. Hop. Voilà, donc la personne qui a proposé A. Timothée. Un V comme Victor? Non, il n'y a pas de Victor. Une autre lettre? E. Ah oui, des E, il y en a, ouais. Alors. E. 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 Et E. Alors, vas-y, Janine. Hein. On va dire que c'est même en fonction du nombre de fois qu'il y a la lettre. Donc là, tu peux prendre quatre choses, si tu veux. Qui d'autre? I. Oui, il y a des I. Alors, ici, il y a un I. Ici, il y a un I. Il y en a trois. Donc, vas-y, Bénédicte. Et il y a un I ici.
H.
Un H. Malheureusement, il n'y a pas de H.
S.
Alors, S, oui. Effectivement, il y a deux S, un ici et un ici, j'espère. Ah non, il y en a quatre. Il y a quatre S, voilà. Alors, M, oui, M comme Martin, ouais. Oui, il y a un M et ça fait un mot en entier, donc tu peux aussi, Samuel, le mot ami. On se rapproche, ça commence à se remplir. Les ados, là, Philémon, t'as pas une proposition à faire? Alors, dis-moi. U? U, oui, exactement, U. Ici et ici. Alors, il y a deux U. Ouais, Clémence, pardon? Ah non, il faut donner des lettres. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme lettre? F. F. Oui, il y a un F ici. Christophe, de nouveau.
P.
Oui, il y a un P ici. Ah, j'ai oublié un A. Excusez-moi, j'ai oublié un A ici en plus. Voilà. Alors,
un T.
Un T. Oui, Dominique. Il y a deux T.
Un R.
Un R. Ouais. Alors, un R. Un R. Là, j'ai oublié un S. J'ai oublié un S en plus ici. Alors, il y a Timothée qui lève la main. Un O. Alors, il y a trois O. Et un N. N. Il y a deux N. Timothée, il y avait trois O. Ah oui, oui, il y a un O ici, ouais, tout à fait. Et la dernière lettre. Un G, exact. Bravo, Céliane. Bon. Alors, à votre avis, de qui est-ce qu'on va parler, les enfants ? Daniel. Alors, vas-y, pas ce Daniel-là, hein. Mais un autre Daniel qu'on trouve dans la Bible. Voilà, donc l'objectif, c'est que ce ne soit pas ramené à la maison. Donc après, à la fin, vous pourrez revenir vous servir. Hein. Vous répartir les grands et les petits. On va parler de Daniel, qui a vécu il y a 2500 ans. Et dans la Bible, il y a un livre qui porte son nom. Et on va lire ensemble le début du livre de Daniel. On va lire le chapitre 1 et on va le lire en deux fois. On va commencer d'abord par lire les versets 1 à 7. Dans la version français courant. Pendant la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, le roi de Babylone, Nabucodonosor, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, en son pouvoir. Et le laissa s'emparer d'une partie des ustensiles réservés au temple de Dieu. Nabucodonosor les emmena en Babylonie, et il déposa les objets dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Le roi Nabucodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, avoir belle apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin d'être capable de servir le roi dans son palais. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient au service du roi. Parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belteshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Et donc avant de parler de Daniel, ces premiers versets nous présentent le contexte, ce qui se passait à l'époque. Et le contexte était que la superpuissance, on dirait aujourd'hui les États-Unis, hein, dans le monde, ou la Chine peut-être, la superpuissance était venue faire le siège de Jérusalem et avait gagné. En fait, le roi de l'époque, c'était Nabucodonosor. Ça faisait quelques mois qu'il était roi, qu'il était sur le trône de Babylone après son père. Il venait de remporter une grande victoire contre les Égyptiens. Et comme il était dans la région, il est allé vérifier que tous les petits seigneurs, les petits royaumes, étaient bien, bien sages, bien soumis. Et donc, il est allé notamment dans le royaume de Juda pour vérifier que tout se passait bien. Le roi Joachim n'a pas forcément joué le jeu. Et du coup, il y a eu un siège et Nabucodonosor, ce que nous dit le texte ici, a vaincu le roi de Juda. Alors pour essayer d'imaginer ce que ça peut être, un tel événement, le plus simple, c'est d'aller en fait à Londres, aussi bizarre que ça puisse paraître, au British Museum. Et on y était il y a 3 ans avec nos amis, justement, qui sont là. Et au British Museum, les archéologues anglais ont rapporté depuis l'Irak actuel le mur d'un palais d'un roi. Ce roi, c'était un roi assyrien, et qui raconte justement la prise d'une ville d'Israël. Donc c'était quelques dizaines d'années avant Daniel, mais le déroulement est exactement le même. On voit ici donc des photographies de ce mur qui est dans le palais, c'était le mur d'une salle du palais du roi assyrien. On voit les soldats assyriens, babyloniens. C'était les mêmes armes, les mêmes habits. On voit également les Israélites qui essayaient de défendre leur ville depuis les tours. Et puis, sur cette grande frise, sur ce mur, il y a également des scènes assez touchantes où on voit les suites de la prise de la ville. Et notamment, on voit les Israélites qui ont été emmenés en exil. Donc là, c'est une famille, je ne sais pas si vous voyez bien, avec une charrette, deux bœufs qui tirent la charrette, quelques sacs posés sur la charrette, des petits-enfants, et voilà, une famille qui part, qui quitte le royaume d'Israël. Et après la prise de Jérusalem, on peut imaginer que Daniel a aussi été emmené de cette manière-là. On ne sait pas quel âge il avait, il était sans doute dans l'adolescence. Il a été emmené en exil avec ses amis. Et quand il arrive, il entre dans un programme de reformatage. Comme quand on a un ordinateur, on reformate tout le contenu, on l'efface et on remplace quelque chose, on le remplace par quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ça le programme dans lequel va rentrer Daniel pendant 3 années. On va leur apprendre ce que nous dit le texte biblique. On leur apprend la langue babylonienne, l'écriture babylonienne. Donc on pense que Daniel a été formé pour être scribe. Donc là, on reconnaît cette écriture cunéiforme. Et donc voilà, c'était tout un apprentissage qu'il allait devoir faire. Une nouvelle façon de parler, une nouvelle écriture, des nouveaux noms. Beaucoup de choses qui changent. En fait, on va d'une certaine manière faire rentrer Daniel et ses 3 autres amis, dont on nous donne les noms, dans le moule babylonien. Et il faut que, voilà, ils oublient un peu leurs habitudes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient à Jérusalem. Et là, maintenant, on va en faire des bons babyloniens. Et face à ce programme, à ce reformatage, comment va réagir Daniel? Comment est-ce qu'il va vivre ce déracinement, cette obligation à rentrer dans un nouveau cadre, un nouveau moule? Et on va lire après la façon dont Daniel a réagi, mais assez spontanément, moi je m'étais imaginé 2 hypothèses un peu extrêmes. Soit Daniel accepte tout en bloc, c'est comme ça, Dieu a permis que je me retrouve à Babylone, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être esclave, mais finalement je ne suis pas esclave, je suis dans le palais du roi, on me propose une formation de 3 années, je vais être vraiment, j'étais noble dans une famille noble, je reste dans une position tout à fait prestigieuse, donc allons-y, je veux dire, je suis à Babylone, vivons comme des Babyloniens. C'est une opportunité en fait. Une opportunité, voilà, il ne faudra pas trop se casser la tête. Dieu a permis ça, allons-y. Et au contraire, on pourrait voir Daniel un peu comme un héros romantique qui refuse absolument, en bloc, cette assimilation forcée, qui proteste, qui résiste, qui dit non, qui voit son identité comme étant une identité juive avant tout, et qui refuse absolument tout compromis. Alors comment va réagir Daniel ? Je vous propose de lire la suite du texte et de finir la lecture du chapitre. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel : c'est le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de Hanania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. Et à ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. L'intendant accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on constata qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des plats de la table royale. C'est pourquoi l'intendant, responsable d'eux, continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la littérature et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. La situation de Daniel resta inchangée jusqu'à la première année de Cyrus le roi. Alors si je reviens à mes deux hypothèses de départ, est-ce que Daniel accepte en bloc tout ce que va lui proposer sa nouvelle maison, sa nouvelle nation ? Non, le verset 8 commence, Daniel refuse de se rendre impur. Et est-ce que pour autant, Daniel refuse en bloc tout ce qui lui est proposé ? On nous dit tout à la fin, il s'est mis au service du roi jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Ça fait 60 ans. Pendant 60 ans, c'est pour ça qu'on pense qu'il était adolescent en fait, hein, peut-être 14-18 ans. Pendant 60 ans, Daniel vit à la cour du roi de Babylone et il est au service des rois de Babylone. Il s'insère d'une certaine manière dans la société babylonienne. Daniel cherche à rester intègre, fidèle à Dieu, mais ce n'est pas un refus en bloc de tout ce que la société babylonienne représente. Et d'une certaine manière, refuser tout ou accepter tout, ça aurait été sans doute une solution plus simple, parce que si on dit toujours oui ou toujours non, on n'a même pas besoin de réfléchir. Je suis dans une position et j'en sors pas. Mais Daniel fait un autre choix, et je vous propose de nous arrêter un petit peu au choix que fait Daniel. La question qui se pose à lui lorsqu'il arrive à Babylone, qu'il voit devant lui un petit peu ce programme de reformatage qui se présente, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux arriver à rester intègre, à rester fidèle à Dieu dans un environnement qui est hostile, dans une culture qui n'est pas favorable à la loyauté envers Dieu ? Et d'une certaine manière, cette question nous concerne aussi nous, qui sommes disciples du Seigneur Jésus dans la France du XXIe siècle. Nous évoluons dans une culture qui a été fortement influencée par la foi chrétienne pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Mais aujourd'hui, cette influence de la foi chrétienne, beaucoup l'ont oubliée et beaucoup la remettent en cause également. Et aujourd'hui, notre société, notre culture occidentale, postmoderne ou ultramoderne, comme on dit, avance sans aucune référence à Dieu. Jésus, qui avait à cœur la vie de ses disciples, lorsqu'il parle de cette culture, de cette société qui est indifférente envers Dieu ou qui est hostile envers lui, il utilise le terme de monde, le monde. Et c'est notamment ce terme-là qu'il utilise lorsqu'il prie pour ses disciples dans la veille de sa mort sur la croix. Voilà ce qu'il demande à son Père. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, il parle de ses disciples. « Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde, et comme moi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Les disciples de Jésus, nous, je pense que cette partie-là, en tout cas du chapitre de Jean 17, on peut l'appliquer aussi à tous les disciples du Christ, pendant les milliers d'années qui nous séparent de lui, mais nous aussi, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes immergés dans la culture occidentale, post-chrétienne, mais nous devons veiller à ne pas être guidés, dirigés par cette culture. Et la question qui se posait à Daniel il y a 2500 ans, elle se pose aussi à nous. Comment peut-on être des disciples de Jésus dans ces conditions, dans ces circonstances? Et si on revient à Daniel, il y a deux choses que j'aimerais souligner dans le texte qu'on a lu et qui me paraissent importantes. La première, c'est que Daniel prend une décision. On l'a vu au chapitre 8. Prend une ferme décision dans son cœur, un choix, le choix de l'intégrité. Et la deuxième chose importante, c'est que Dieu agit. Il agit pour le bien de Daniel dans ce contexte difficile. Et Daniel le sait et place sa confiance en Dieu. Ça peut paraître des choses évidentes, faire un choix et appuyer ce choix sur le fait qu'on a confiance en Dieu. Et pourtant, ce sont des éléments fondamentaux. Daniel prit la ferme résolution, d'abord. Rester intègre, rester fidèle, rester obéissant, ça commence par un choix, une prise de décision, le fait de poser une limite, de dire « non, ça, je ne l'accepte pas ». Daniel n'a pas eu le choix de partir à Babylone, puisqu'on l'a sélectionné, on ne lui a pas demandé son avis, il n'était pas volontaire. On lui donne un nouveau nom, il n'a pas pu le choisir, c'est l'intendant qui a choisi le nouveau nom. Là, pour la nourriture, Daniel voit un danger pour sa foi, pour sa loyauté, et il pose une limite. Le moule babylonien était en train un peu de se refermer autour de lui, et il dit « stop, il y a une partie de mon identité qui ne doit pas être touchée. Ma loyauté, ma fidélité envers Dieu ne va pas être touchée par ce nouvel environnement dans lequel je vis. » Et rester intègre dans le monde, pour reprendre ce terme qu'utilise Jésus, dans le monde, ça commence par un choix. Et il y a trois choses que je voudrais nous rappeler par rapport au fait de prendre position, d'affirmer un choix. C'est que si nous ne choisissons pas, alors c'est le monde qui choisit pour nous. Si nous ne choisissons pas, c'est le monde qui va choisir pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà nagé dans une rivière. Dans une rivière, il y a du courant. Eh ben, si on fait rien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, des fois, on peut résister face au courant, mais si on fait rien, on nage dans le courant, en fait. Et nager à contre-courant, eh ben, ça fatigue. Ça fatigue. Si on ne fait pas le choix de l'intégrité, eh ben, ce sera le monde, la société, la culture, nos amis, les influenceurs, les médias qui vont faire les choix à notre place. Première chose. Deuxième chose, c'est que décider de dire stop, de dire non, parfois c'est prendre un risque, parfois ça peut aussi être dangereux. Ici, on voit que Dieu a conduit les choses pour que Daniel et ses amis, entre guillemets, passent entre les gouttes, puisqu'il a rendu favorable l'intendant qui était compréhensif. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la suite du livre de Daniel, il y a des moments où, quand il a dit non, il y en a qui ont utilisé ça pour le dénoncer, pour qu'il soit condamné, mis dans un puits avec des lions à la fin de sa vie. Ce n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on a pu lire ce matin, dans ce premier récit. Si on ne décide pas, c'est la société ou le monde qui va décider pour nous. Parfois, c'est une prise de risque. Et on l'a vu, Daniel ne dit pas non à tout. Daniel ne dit pas non à tout. Pour lui, cette question de nourriture était un vrai problème. C'était le risque de désobéir à Dieu, de ne plus être loyal. Mais il y a d'autres aspects de la culture babylonienne qui ne lui ont pas posé de problème. Il a vécu pendant 60 ans à la cour du roi. Nous, aujourd'hui, l'enseignement de Jésus, de l'apôtre Paul, nous dit qu'on n'est plus confronté à un problème de pureté ou d'impureté par rapport à la nourriture. Cette question-là, elle ne nous concerne plus. Mais on a dans notre vie, au jour le jour, des questions qui peuvent se poser, de savoir sur d'autres domaines comment être loyal envers Dieu, comment lui obéir, comment être fidèle dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à la sexualité, dans le regard qu'on porte vers les personnes du sexe opposé, dans notre rapport aussi au pouvoir qu'on peut avoir, je ne sais pas que le pouvoir président de la République et tout ça, mais rien que dans une famille, au travail, il peut y avoir des jeux de pouvoir. Comment est-ce que je, je me comporte par rapport à ces questions-là? Comment est-ce que je vis aussi la justice sociale par rapport aux personnes les plus démunies? On a besoin d'être guidé pour savoir discerner à quel moment dire non et à quel moment dire « ouais, je suis à l'aise avec ça, avec cet élément de la culture », comme Daniel l'a fait. Et ça fait le lien avec le deuxième point. D'abord, Daniel a pris une décision et ensuite, il s'est appuyé sur Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance dans l'action de Dieu. Parce que si on fait bien attention, si on reprend le texte, on voit que Dieu, il est présent tout au long de ce texte. C'est Dieu qui a livré le roi Joachim à Nabucodonosor. C'est sûr que si on demandait à l'époque à un journaliste, il aurait dit c'était l'armée la plus puissante, ils n'avaient aucune chance, Joachim. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça qu'en fait les choses se passent. C'est que c'est Dieu dans sa souveraineté qui a permis qu'il y ait une victoire du roi babylonien. Ensuite, on nous dit que Dieu a rendu favorable l'intendant. Il l'a rendu compréhensif. Et tout à la fin, on nous dit que c'est Dieu qui a accordé la sagesse pour que Daniel et ses trois amis soit plus intelligent et plus sage que les autres. Et je pense aussi que le régime vegan de Daniel et de ses amis, pendant 3 années, s'ils, à la fin, ils étaient encore mieux portants que les autres, ce n'est pas parce que les légumes avaient des vertus particulières, mais c'est bien parce que Dieu leur a permis, avec un régime qui était conforme, en tout cas aux prescriptions de Dieu, avec ce régime-là alimentaire, ils ont pu... C'est par l'action de Dieu qu'ils ont pu être en meilleure forme et en meilleure santé. Daniel savait d'où venait sa bonne santé après ces 3 années. Daniel fait l'expérience de la fidélité de Dieu en exil et je pense que c'est quelque chose sur lequel il peut fonder sa décision. Prendre une décision en l'air de dire « je vais rester intègre » si on ne sait pas, si on n'est pas convaincu que Dieu est là et qu'il est fidèle et qu'il agit, c'est quasi impossible. Et pour nous aussi, c'est bien parce qu'on peut faire confiance en Dieu pleinement, comme Daniel, que l'on peut prendre ce choix de vivre dans le monde, mais sans être du monde, de vivre de manière intègre, de manière obéissante à Jésus. Et Jésus lui-même encourage ses disciples dans la confiance. Évangile de Luc, chapitre 12, « Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 sous, cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Dieu prend soin du moindre détail dans sa création. Alors, à combien plus forte raison il va prendre soin de ses disciples, de ses enfants? Oui, dans un environnement qui est indifférent à Dieu, ou qui est hostile à Dieu, ce n'est pas forcément facile d'être des disciples fidèles, mais on peut avoir une confiance totale dans le fait que Dieu agit, que Dieu contrôle les situations, qu'il vient à notre aide lorsqu'on fait le choix d'être fidèle. Et il le fait à sa manière. Parfois, comme dans le récit qu'on a lu ce matin, Dieu va mettre sur notre chemin des personnes qui ne partagent pas forcément notre foi, mais qui vont pouvoir nous être favorables. C'est ce qu'il a fait ici avec Ashpenaz. On dirait un truc de Décathlon, hein, Ashpenaz, mais ce n'est pas le cas. Parfois, Dieu va permettre une épreuve. Comme lorsque je vous ai parlé de cet épisode que vous connaissez, de Daniel qui a été mis dans la fosse au lion. Il y a aussi l'épisode où les amis de Daniel ont été mis dans une fournaise. C'était un des mots qu'on avait affiché. Et Dieu nous guide aussi par l'esprit qu'il a mis en nous, qui nous aide à discerner les opportunités favorables, qui nous aide aussi à discerner les dangers pour notre foi. Et ce n'est pas toujours simple. On a chanté, hein, on est fragile. C'est difficile, même si je suis fragile, même si c'est difficile, on peut avancer. Quand on lit le livre de Daniel, parfois on peut avoir un petit peu l'impression que pour Daniel, lui, il a toujours fait les bons choix. Il n'a jamais douté. Il a toujours Voilà, il a continué à adorer alors que c'était interdit. Il a refusé la nourriture. Ses amis ont continué ont refusé de se prosterner devant la statue d'or, etc. On peut se dire, il n'y a aucune place pour la faiblesse, en fait, chez Daniel. C'est pour ça qu'on a besoin de toute la Bible, comme tu nous l'as rappelé. Parce qu'on voit dans d'autres livres de la Bible que dans nos vies, ce n'est pas toujours aussi facile. Hein. On peut être faible, on peut chuter. Là, je pense que l'objectif, c'est à travers les exemples de Daniel, d'encourager tous les Israélites qui étaient en exil pour leur dire « Oui, mais ok, vous êtes en exil, vous êtes dans une culture hostile, mais regardez, Dieu est là, Dieu est présent, restez fidèles. » Dans d'autres livres de la Bible, on voit des hommes de foi comme l'apôtre Pierre, cet exemple, des disciples de Jésus qui ont vécu 3 ans avec lui et qui, au moment où il fallait faire preuve de loyauté, où on demande « Toi, tu es un d'eux », Pierre renie son maître, renie Jésus. Ça peut nous arriver de tomber, mais Dieu nous donne, par son esprit aussi, cette force pour nous relever et pour avancer en lui faisant confiance, en faisant confiance à son action. Prendre la décision d'être intègre, obéissant et fidèle, et avoir confiance en Dieu qui agit. C'est les deux éléments clés que Daniel a vécu dès qu'il est arrivé à Babylone et qu'on va retrouver toute sa vie. Alors soyons inspirés par son exemple pour un autre tour dans la semaine qui vient, pendant l'été, vivre en disciple fidèle du Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Père, je l'avoue, comme ces foules à Jérusalem au jour des rameaux, je loue très facilement le nom de Jésus, puis comme Pierre, je le renie tout aussi aisément. Je suis transporté lorsque ensemble nous l'adorons, mais le lendemain je me retrouve avec la foule qui le conspue et je me soumets à la pression du groupe. Pardon pour ces allégeances, pour ces engagements si changeants, pour ma nature influençable. Pardon pour mes excuses faciles et pour mon insouciance face au péché. Père, tu es réellement merveilleux. Tu mérites ma loyauté. Apprends-moi à considérer que ma relation avec toi est précieuse plus que tout. Aide-moi à anticiper les défis afin que je les affronte par ton esprit. Je veux désormais suivre Jésus, même lorsque cela me coûte. Merci pour ta fidélité envers moi, malgré mon inconstance. Merci parce que Jésus n'a pas fléchi dans son intention de mourir pour moi. Fortifie-moi, fortifie-nous, afin que nous vivions pour toi aujourd'hui et tous les jours. Amen.